RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Fred Hermel, Polo Breitner, Julien Laurence et Yoann Crochet, les drôles de dames sont là le mardi soir, exceptionnellement. Elles seront bien sûr là lundi prochain.
C'est bizarre.
Il n'y aura que 6 jours hein, entre les drôles de dames. On va beaucoup se voir, plus que d'habitude.
Bah, tu nous as manqué.
L'équipe de France Espoir s'est imposée, Valentin Jamain, face à la Bosnie.
Les Bleus qui ont fait le boulot, victoire 2-0 à Cliouche et Kitike. La France remonte à la deuxième place de sa poule de qualif à l'Euro 2025 avec un match en moins. Il faudra gagner les deux prochains pour s'assurer de la première place et de la qualif directe à l'Euro face à Chypre et face à l'Autriche. Donc le bilan de ce rassemblement pour les Bleus, un nul face à la Slovénie. Et donc la première victoire de Gérald Batic à la tête de l'équipe de France Espoir ce soir face à la Bosnie, victoire 2-0.
Ah, plus tard, Valentin, je vous rappelle également qu'on est en direct sur la chaîne YouTube de l'After, @after-foot, pour nous voir, vous abonner. Est-ce que Julien, t'es connecté à la chaîne YouTube, à distance, là?
Non.
Non. Bon.
Non, parce qu'il est concentré sur son micro.
Ah non, tu fais ce que tu veux. Il n'y a aucune obligation. Moi, je change.
Oui, non, mais il a raison. Il faut te concentrer.
Non, mais j'ai pas trop envie de vous voir. Non, je rigole. Non, il faut que je vous regarde comment vous habillez. Ouais. C'était encore un petit peu de bronzage ou pas.
Très sobre.
Parce que, est-ce que t'es en slip?
C'est une bonne question, ça. Comment Julien Laurence fait les dents le dame lundi soir? En survêt,
habillé comme je l'étais toute la journée.
Toute la journée.
Donc aujourd'hui, c'est survêtement. C'est plus la capuche Dolce & Gabbana. On fait les choses bien quand même.
Non, c'est pas vrai. Moi, quand j'étais, vous pouvez lire dans les deux après. Quand j'étais en télétravail à Madrid, je faisais les afters en caleçon David Beckham sur mon canapé.
Ah bon.
Ah bah chacun oui. Son truc, hein. Après, ça, on regarde pas
Beckham.
Trop.
Ah ouais, il y a une marque de David Beckham.
Pas demandé à Apollo comment il s'habille lui les soirs d'antenne. Je pense qu'il est décontracté, tranquille. Il n'est pas en Dolce & Gabbana, mon cher Polo.
C'est très variable. En fonction de la journée. Quand je suis en short, tu vois, avec mes charentaises communistes. parce qu'elles sont toutes rouges.
Ah, c'est pour ça, d'accord.
Et j'ai un gros pull de Union Berlin. Parce qu'il fait pas chaud.
Tu sais, on dirait une émission la nuit, tu vois. Machin Béranger.
Ah oui.
Quelle voix.
Harry Kane. Est-il toujours aussi indispensable avec la sélection anglaise? T'as la compo, Julien, pour ce soir déjà, au fait, ou pas?
J'ai la compo pour ce soir, effectivement.
Harry Kane, titulaire.
Et titulaire, c'est sa 100e sélection. Mm. Ah, Wembley en plus, c'est quand même un grand moment à vivre avec toute la famille Kane dans les tribunes, sa femme, les 4 enfants, papa, maman, tout le monde. Forcément, c'est un moment particulier. Donc, on savait qu'il serait titulaire, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que le débat s'est ouvert, notamment pendant l'Euro, après l'Euro, un Euro où même s'il a fini meilleur buteur à égalité avec d'autres,
avec 12 mètres,
qu'il a marqué quelques buts, il a quand même été remplacé par Sylvain Ripoll 5 fois sur les 7 rencontres de l'Angleterre, dont la finale, où il a clairement pas été bon, il a été beaucoup critiqué par des Gary Lineker, des Wayne Rooney, des gens comme ça, qui sont aujourd'hui des consultants. Et surtout le match samedi en Irlande aussi, où il a paru, pas vraiment au top physiquement, alors qu'il avait la veille, il avait répété encore une fois qu'il était physiquement et mentalement à son meilleur niveau de sa carrière, lui qui a eu 31 ans, donc à la fin du mois de juin. Donc c'est vrai que le débat existe, même si... Voilà, je pense qu'il existe, mais qu'il y a pas de danger sur le fait que Kane ne joue plus pour l'Angleterre. Il sera titulaire, que ce soit Lee Carsley qui reste comme sélectionneur ou quelqu'un d'autre qui arrive. C'est difficile de voir qui pourrait le remplacer. Oui, Solanke, c'est pas mal. Watkins, c'est très bien parfois. Tony, maintenant, est parti en Arabie Saoudite. Et puis, ça reste Harry Kane quand même. Le numéro 9 du Bayern, le numéro 9 de l'Angleterre. On l'a dit, 100 sélections, 66 buts. 72 sélections comme capitaine de cette équipe d'Angleterre, 57 buts avec le Brassard. C'est un très grand attaquant, un très grand monsieur. Mais il y a ce sentiment quand même que c'est un petit peu plus laborieux pendant ces dernières semaines, ces derniers mois. On l'a dit à l'Euro, où collectivement ça fonctionnait pas très bien. À voir si le nouveau sélectionneur, peu importe qui ce sera, peut revigorer un petit peu et Kane et le collectif offensif de cette équipe-là. Mais c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions en Angleterre sur son niveau actuel et sur le fait, est-ce qu'il a peut-être pas ses meilleures années derrière lui finalement.
31 ans, tu l'as dit. 44 matchs, 44 buts avec le Bayern la semaine dernière, mon cher Polo. Est-ce que c'est arrivé jusque chez toi, ces doutes, ou en Allemagne, il y a unanimité?
Bah, s'il veut prendre la nationalité allemande, moi je le prends, hein. Il y a pas de souci. Mais si tu veux, on est en début de saison, donc moi on va pas attendre des miracles. Il a pas fait de match extraordinaire avec le Bayern cette saison, mais on va attendre évidemment que ça monte en gamme. Moi j'arrive pas bien à comprendre ce débat avec pas d'Harry Kane, parce qu'il faut savoir par qui tu le remplaces quand même, quoi. Julien vient de le dire, c'est un monsieur le mec. C'est le meilleur neuf de sa génération, mais il a le droit évidemment d'avoir quelques semaines est un peu plus moyenne que les autres. Mais tu le remplaces par qui? Et la seule question qui m'intéresse, d'ailleurs, c'est comment est-ce que Ville Group, comme on dit, en Angleterre, c'est-à-dire que ce qu'il pourrait faire qui fait moins de performance, c'est que il y a des inimitiés avec d'autres joueurs. Mais sinon, je vois pas comment on peut se passer d'Harry Kane, quoi. Sauf à dire que c'est une bête noire.
C'est ça qui est intéressant. Non, c'est intéressant. Donc, il y a pour continuer dans ce que Polo vient de dire, il y a deux choses à l'Euro qui ont marqué les gens ici. La première, c'est le but de Watkins en quart de finale qui envoie les Anglais en finale. Où c'est finalement un but à la Kane dans un sens, mais que Kane ne fait plus trop aujourd'hui, c'est-à-dire son appel en profondeur, la façon dont Watkins fait l'appel, la passe de Palmer et la frappe en une touche de balle comme ça croisée, qui et la réaction après ce but-là, alors dans toute la joie de la qualification anglaise, etc., tout ce qu'on veut, c'est le genre de mouvement que Kane ne fait plus, ou en tout cas que Kane n'a pas fait pendant l'Euro. C'est vrai qu'il a, en termes de mouvement, ça a été très compliqué pour lui. La deuxième chose, encore une fois, pour revenir sur continuer ce que Polo disait par rapport à sa place dans le groupe, lui en tant que capitaine, lui en tant que joueur très expérimenté, un des plus anciens, il a quand même fait ses débuts pour l'équipe nationale en 2015. Pour vous donner un ordre d'idée, pour les auditeurs, qui connaissent très bien le football anglais, donc lui, il était le 1207e joueur à représenter l'Angleterre, un truc comme ça. Le 1208e, je crois, c'était Ryan Mason. Une sélection en tout dans sa carrière. Après, on a eu un Callum Chambers, l'ancien joueur d'Arsenal notamment. Et puis, tu crois, t'as même John Flanagan, l'arrière latéral de Liverpool il y a quelques années. Donc, c'est pour vous montrer à quel point sa longévité. Les gars qui ont fêté avec lui leur première sélection quasiment en même temps, ils ont pas du tout duré. Ils ont disparu très très vite des radars de la sélection anglaise. Donc, il y a ce statut-là. En finale contre l'Espagne, il y a un incident, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, hein, en plus qui est sur le côté du terrain, en face des bancs de touche, face aux télévisions aussi, où Jude Bellingham crie vers le banc de touche, dit à Kane qu'il se mette à presser maintenant. Et là, on est au milieu de seconde période. Il va très bientôt après, il sortira d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'à un moment, les autres joueurs anglais de la sélection, et c'est Bellingham qui l'exprime de cette façon-là. Alors je pense qu'il y avait le fait qu'il jouait une finale, il y avait la pression, il y avait tout ça. Il aurait peut-être pu le faire différemment. Mais là, il l'a fait aux yeux de tous. Tout le monde a vu, tu pouvais lire sur ses lèvres facilement, qui disait, mais en gros, j'en ai marre, on en a tous marre que Kane ne presse pas, alors qu'on veut être une équipe qui presse. Le problème, c'est que si ton capitaine, ton numéro 9, qui devait être le premier joueur à presser, puisque le pressing part toujours de ton avant-centre, c'est quand même très très compliqué si ton avant-centre ne le fait pas. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs points d'interrogation, on va dire, sur pas simplement l'état de forme d'Harry Kane, parce que quoi qu'il arrive, on l'a dit, ça restera un très très grand buteur. Le but, il l'a en lui, il a ce sens du but incroyable, il continuera toujours à marquer des buts. Mais est-ce qu'il est la bonne personne pour mener cette équipe-là, notamment en termes de pressing, par rapport à ce que les autres joueurs derrière peuvent apporter aussi?
Il travaille défensivement au Bayern, mon cher Polo?
Ouais, il travaille, ouais. Il revient beaucoup au milieu de terrain. Encore une fois, il y a peut-être les années qui passent aussi, mais on n'a jamais... Enfin, il est considéré comme le plus grand des professionnels au Bayern Munich. C'est-à-dire, Thomas Tuchel disait, il y avait lui et les autres, quoi. Et pourtant, il y a des joueurs comme Thomas Müller et tout ça. Mais je voudrais revenir à ce que dit Julien, parce que pendant l'Euro, on m'a fatigué, RMC m'a fatigué, avec l'Angleterre, et on a beaucoup parlé de Bellingham, blablabla, tout le monde avait plein la bouche, etc. Moi, je constate que l'attaque contre Kane provient de Bellingham. Et Bellingham n'est pas un joueur d'équipe. Bellingham est quelqu'un qui va prendre le pouvoir, qui va mettre des coups de couteau dans le dos pour prendre le pouvoir. Et le fait qu'il attaque directement l'actuel boss, puisque capitaine de la sélection, n'est tous une surprise. Et peut-être qu'un jour, on comprendra pourquoi Bellingham n'était pas spécialement apprécié à Dortmund.
Est-ce que Kane est vraiment le boss, quoi, de la sélection anglaise? C'est la question. Est-ce qu'il a la personnalité pour l'aide, pour s'affirmer? Bellingham semble, en tout cas, réclamer ce statut-là. On en a fait les débats.
Moi, c'est la méthode pour prendre le pouvoir qui m'intéresse.
Ouais, ouais,
et on en reparlera peut-être avec Fred dans 2-3 ans au Real. Et vous verrez pourquoi est-ce qu'on n'aimait pas Bellingham à Dortmund. Mmh. Et je trouve que c'est pas, si tu veux, on peut attaquer Harry Kane sur ses performances, etc. Mais moi, ce qui est le fait, c'est que ça arrive par Bellingham. Et je le vois gros comme une maison, Bellingham. Donc, c'est pas sur ses performances, la façon dont il veut avoir le pouvoir qui m'intéresse.
Ben, ça va être intéressant, parce que l'an dernier, le Real a tout gagné, donc c'est facile. C'est quand les coups durs vont arriver que la personnalité de chacun va ressurgir. Donc moi, je fais confiance à Polo et j'attends de voir.
Oui, mais moi, je me pose la question, Julien, pour conclure sur Harry Kane. Est-il un leader vraiment? Est-il un leader vocal? Est-il un leader charismatique, de personnalité? Je pose la question quand même.
Gestes, hein.
Julien.
Non, le charisme, non. Le charisme, non. Charismatique, on ne veut pas trop dire ça. Mais beaucoup moins que Bellingham, par exemple. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus, même à 10 ans d'écart. Hein. Mais après, oui, ça reste un leader par la carrière, déjà. Même si, hein, il sera ce soir le 10e centurion, donc comme les appellent les Anglais, le 10e joueur anglais à plus de 100 sélections, le seul à n'avoir jamais rien gagné avec son club. Ça, je pense que ça pèse dans le vestiaire aussi, dans le mauvais sens pour lui. C'est-à-dire qu'un Bellingham, par exemple, pour revenir à ce qu'on vient de dire, qui a tout gagné déjà à 21 ans, il regarde aussi Kane en disant d'accord, je vais bien, t'es mon capitaine, t'es un très très grand buteur, mais t'as jamais rien gagné non plus.
Il n'a rien gagné, en club ni en sélection, évidemment.
C'est triste, hein, parce qu'il mériterait tellement.
Ça peut être une anomalie d'une carrière, le plus grand joueur de l'histoire à n'avoir rien gagné.
Et puis le foot est très superstitieux. Hein.
Tout à fait, exactement.
Ah bah, c'est un milieu ultra superstitieux, donc automatiquement ça pèse.
Voilà pour Harry Kane. Dans un instant, Polo va encenser comment faire autrement le duo Wirtz-Moussiala, duo offensif de la Nationalmannschaft. On en parle avec les drôles de dames. Vous écoutez RMC, il est 20h32.